Allô tout le monde, bienvenue au podcast de l'Acadie Lacajon. Moi, je suis l'animateur réel Thibault, et puis aujourd'hui, c'est mon plaisir de vous présenter Madame Susan Surette-Draper. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien.
Ça va bien, oui. Si je comprends bien, t'es une Acadienne qui reste dans la vallée de la Nouvelle-Écosse, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Je suis à Port Williams, qui est à peu près à 10-15 minutes de Grand Pré. Et ça, ça donne une idée de où ce que je suis, mais je viens, Port William, c'est l'autre bord de la rivière de Grand Pré, la rivière qu'on appelle aujourd'hui la Cornwallis. Dans le temps des Acadiens, c'est la rivière Saint-Antoine. Et dans le temps des Mi'kmaq, c'était la Duduwaktuk, que j'ai sûrement mal prononcé, mais quand même, c'est une des rivières qui déverse dans le bassin des mines.
Ça fait que ça s'appelle le... Rivière Cornwallis, sister. Wow.
Ouais.
Et ouais, anyway. Meilleur de mind blowing à moi.
Ouais.
Quand tu connais l'histoire, tout ça. Mais en tout cas, ça fait que, ouais, rester dans la vallée comme une Acadienne veut dire, y a grand fou. Y a ah, c'est sûr que, quoi, d'Acadien là, c'était si t'es prof de Grand Pré.
Il y en a en masse. Moi, je suis sur l'autre bord de la rivière Grand Pré, le bord. Du Cornwallis. C'est appelé dans le temps des Acadiens la rivière au canard.
Okay.
So, even la paroisse de rivière au canard. So, il y avait deux paroisses point loin. Il y avait Saint-Charles-les-Mines, qui était à Grand Pré, qui prenait le monde de Melanson et tout ce bord-là, jusqu'à Hansport aujourd'hui. Mais Wolf Hill et tout ce bord-là de la rivière. Mais sur mon bord, c'était la rivière au canard. So, ça couvre toute la région de Port Williams, Centerville, de Canning, jusqu'à Blomidon, vraiment. Et ça, c'était la paroisse de Saint-Joseph, de la rivière au canard. Et il y avait, dans le temps, quand on arrive à la déportation, s'il y avait 1200 personnes à Grand Pré, il y avait comme 800-900 personnes à la rivière au canard. So, c'est deux grosses. Place qu'avait chaque une paroisse sur les deux bords de la rivière.
Ok, ça va ma soeur. Ça va que Canning, c'était le village Canning était influencé par le nom de la rivière au canard. Ça, c'est...
Oh, ben, Pete, c'est pas vraiment Canning, parce que Canning, c'est nommé après, je sais pas, un général anglophone ou quelque chose, mais il y a la rivière pour se rendre de Port Williams, qu'il faut traverser la rivière Cornwallis avec le petit pont, et tu continues sur ce chemin-là quand tu vas à Canning, et tu vois la prochaine rivière, c'est la rivière Canard. Mais aujourd'hui, on dit the Canard River.
Mm-hmm.
Mais si tu regardes l'affiche, c'est Canard, c'est encore appelé Canard. Et ça, c'est le nom que les Acadiens utilisent, la rivière au Canard. Et même les Mi'kmaq qui étaient là avant avaient un grand nom que je ne peux pas prononcer, mais ça voulait dire The Place of the Black Ducks.
Mm-hmm.
So, c'est aussi, c'est toujours la même raison pourquoi que ça appelait ça, mais avec toutes les différentes sortes d'interprétations et prononciations et tout ça. So, quand tu vas à Canning, tu vas penser que avant que tu arrives là, quand tu passes, tu vas dévaler un peu et passer à la rivière Canard, il y a tout petit pont, et c'est encore plat, puis tu montes un peu, puis il y a une lumière qui clignote, parce qu'il y a quatre chemins, et là, on est dans la région de rivière au Canard.
OK.
Et c'est sur les deux bords, et quand tu fais ça, tu vas trouver, quand tu passes, tu vas à Canning, juste avant le petit pont, il y a une affiche qu'on a réussi de mettre là, une affiche bleue, qui dit que c'était la digue acadienne, la grande digue acadienne, et the Acadian Grand Dyke. Et ça, c'était parce que quand on est sur ce chemin-là qui se rend à Canning, on est vraiment sur la grande digue acadienne que les Acadiens ont bâti avant la déportation. C'était la dernière de leur digue parce qu'il avait le middle dike et upper dike qui était plus dans les terres. So, ça fera à votre gauche si tu vas à Canning. Mais quand on passe sur ce chemin-là, qui est aujourd'hui le 358, c'est la grande digue acadienne qu'on suit pour traverser la rivière au canard. So, il y a toutes sortes de choses qui nous disent qu'on est d'un territoire acadien. C'est juste que, juste comme les Acadiens qui vivent dans cette région, on est tous incognito. Le monde, ils parlent tout le monde est bilingue. Les noms des places sont souvent des noms que les Acadiens avaient, mais ils sont prononcés à l'anglais, comme Canard et tout ça. Alors, oui, il y a plein de choses acadiennes ici. Il faut 100%. Juste les découvrir.
C'est faut les découvrir, bien sûr. Et puis, bien sûr, il y a un endroit prof de Iskutabit qu'on a tamassiné à Hove. C'est Grand Pré. Et puis, toi, tu as beaucoup dépassé du temps à Grand Pré.
Ouais.
Et puis, ça, c'est un endroit. Moi, j'aimerais dépasser une semaine à Grand Pré comme un tour guide. J'aimerais, si tu as voir la réaction de, du monde d'ailleurs, du monde de la Louisiane, des Acadiens de Nouvelle-Angleterre et tout ça.
Mm-hmm.
Et puis, moi, de mes observations, quand ce que moi passe là, tu sais, je comprends que c'est le territoire de mes ancêtres et tout ça, mais je suis si tant accoutumé comme un Acadien de la Nouvelle-Écosse, je ne vais pas émotionnel au Nérion, tu sais. Et puis, je comprends que la vénocide et tout ça veut dire, ça c'est quoi que la déportation et tout ça veut dire, ça c'est, je réalise, tu sais, moi, c'est plus ça, puis je réalise que ça c'est si tant une mauvaise chose, puis je ne peux pas même décrire ça. Mais quand est-ce que tu as du monde d'ailleurs, des Acadiens d'ailleurs qui viennent ici, qui voient ça, il y en a qui le pardonnent, comme David Cheremy qui était sur mon podcast, m'a dit, quand il a vu la section de Grand Pré, que tout ce qu'il y avait adresse, que les Acadiens avaient bâti, il n'a pas trop exploré Grand Pré encore. Et lui, il compte qu'il avait, pardonné, il n'a pas pu parler tout ça.
Ouais.
Ça c'était, tu sais, quand est-ce que. Quand est-ce que le monde te parle de Grand Pré et tout ça. Et puis, toi, tu as dépassé si tu as le temps, là, si tu as travaillé là, ça j'ai compris. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que c'est fascinant, ça? Le monde qui va visiter là, les affaires, les refs qui sont faits, tu sais, moi, j'ai googlé, je ne sais pas quoi j'ai googlé, mais j'ai vu qu'il y avait le Run Cloud. Tu sais quoi ce que je veux dire?
Ouais.
Tu pourrais t'expliquer encore le Run Cloud?
Ouais, mais le Run Cloud n'est pas Grand Pré, il est à Pisacuit, qui est Windsor.
Gotcha.
Qui est au cimetière Sainte-Famille, qui est vraiment dans la région de Falmouth. Et là, moi je suis la présidente des Amis de Grand Pré, et le petit terrain qui fait partie du gros cimetière Sainte-Famille, qui est dans Falmouth. Ça, c'est à l'autre bord de la... C'est une autre paroisse. Alors, dans le temps des Acadiens, ici, dans la région des Mines, qu'on appelait, il y avait Grand Pré Rivière-au-Canard, comme j'ai déjà dit. Mais une fois que tu passes à la petite rivière à Hansport, là, tu es à l'autre paroisse, qui est la rivière Sainte-Famille. La paroisse Sainte-Famille, qui est sur ce bord ici de la rivière Avon, qu'on appelle aujourd'hui, mais c'est à Pisacuit. Et l'autre bord de la rivière Pisacuit, là qui est Fort Edward maintenant, c'est là qui est à l'église de la paroisse de l'Assomption. So, juste dans cette petite région ici, qui est juste passé Windsor jusqu'à Grand Pré, il y avait quatre paroisses acadiennes, parce qu'il y avait des Acadiens dans toutes ces places-là. Et ils sont toutes venues à peu près dans le même temps, 1680 quelque chose, et c'est sûrement la deuxième génération. So, c'est du monde. Les parents étaient encore à Port-Royal, mais il y avait pas de terre pour tout le monde et des grandes familles et tout ça. Et les Acadiens, on sait, on aime l'aventure. So, la place a allé. Aujourd'hui, les jeunes vont... ils ont été dans le temps de mes parents, tous les Acadiens, pour des jobs et des choses à voir et peut-être l'éducation ont été aux États. Et dans mon temps, après mon temps, il y a eu tous les Acadiens, les nouveaux Écossais, généralement, qui ont été à Alberta. So, c'était toute l'affaire de bouger pour les mêmes raisons. L'aventure, pour faire plus d'argent, pour voir des choses, pour établir sa famille et tout ça. Dans le temps des Acadiens, 1680, c'était venir aux mines. Et en plus, il y avait Cobequid, Quechura et tout ça aussi. Mais ici, dans notre région, c'était les quatre paroisses. So, je vais revenir à ta question.
Bien sûr, go on.
Mais, juste pour dire qu'une des choses qu'on fait comme les amis de Grand Pré, oui, j'étais guide à Grand Pré pour une dizaine d'années, une quinzaine d'années. C'est difficile à s'en souvenir exactement, mais quand même, pour longtemps assez. Et on trouve les réactions étaient toujours inoubliables. Ben, pas toujours inoubliables, ben souvent inoubliables. Juste, pas même pour les visiteurs, mais pour nous, parce que toutes sortes de réactions. Des réactions, le monde était en colère pour ce qui est. Parce qu'à Grand Pré, il ne faut pas oublier. On compte l'histoire des Acadiens globalement, disons, à Grand Pré. On n'est pas un village acadien comme vous autres à Claire ou à Pomnico ou à Shédicamp ou toutes les places. Le monde, Grand Pré, c'est comme on va vous conter l'histoire des Acadiens, la déportation, la vie avant la déportation et jusqu'à là. Après ça, vous voulez voir des vrais Acadiens? On vous envoie, oh, vous avez dit comment? Ben, sûrement vous voulez aller à Claire. Vous êtes des dévots de Shédicamp, ben, c'est là que vous devez aller. Alors, pour nous, c'est comme la place à conter l'histoire grandement et puis là, répondre les questions qui sont plus spécifiques. Parce que souvent, à Grand Pré, c'est pas quelque chose, unusual de voir quelqu'un arriver avec le binder, plein de leurs histoires, de leurs informations généalogiques. Et ils nous disent souvent, ma famille était à Grand Pré. Mais quand on regardait vraiment, Grand Pré avait comme pris un sens plus grand qu'il était. Que si on regardait vraiment, la famille avait été à Rivière-au-Canard. La famille avait vraiment été à Windsor, à la paroisse Sainte-Famille. Mais le monde a beaucoup, beaucoup focusé sur Grand Pré. Que moi, je ne trouve pas que c'est une terrible chose que Longfellow a écrit le poème Évangeline, parce que je crois que sans ça, personne ne se saura pas beaucoup de choses sur les Acadiens. Mais ça dit que tout le monde a focusé sur Grand Pré. Oh, my family was in Grand Pré. Ma famille est à Grand Pré. Mais pas toujours. Grand Pré, c'est un grand, c'est, mais il y avait d'autres, comme j'ai dit, Rivière-au-Canard, pas si loin, est quasiment si grand. La même chose avec Windsor. Il y a plus que 1 000 personnes qui ont été déportées. Où est le fort Edward aujourd'hui, qui est dans cette région-là? So, il y avait des Acadiens à peu près partout. So, ce n'est pas toujours Grand Pré. Grand Pré, formidable pour conter l'histoire aux visiteurs qui ne savent rien du tout. Pour les Acadiens qui viennent pour se retrouver, s'ils viennent de Louisiane ou de France ou Québec, n'importe où, Nouveau-Brunswick, parce que un peu bizarrement, on n'a pas beaucoup de visiteurs de Nouveau-Brunswick. Mais d'où qu'ils viennent et qu'ils veulent savoir plus sur les histoires ou qu'ils ont déjà des impressions, qu'ils vont discuter, c'est une bonne place pour faire ce focus-là. Grand Pré, mais c'est pas tout. Et nous, les Acadiens, les amis de Grand Pré, une fois que j'avais fini d'être guide, j'avais pu voir et on pouvait comprendre que les visiteurs qui venaient à Grand Pré, qui savaient leur généalogie, une partie de leur généalogie, voulaient voir où leur famille avait été déportée. Mais souvent, c'était pas là. C'est sûrement pas juste au lieu historique national de Grand Pré, parce que ça, c'est ces arpents, quelque chose comme ça, et les Acadiens du tout alentour de ça. Sauf so, s'ils venaient et ils disaient, mais OK, moi, on n'était pas à Grand Pré, on était à le village Hébert, dans la Rivière-au-Canard. Comment est-ce qu'on va se rendre là? Ça, c'était toujours un peu difficile, parce que là, il n'y a pas de grand centre d'interprétation à toutes les places. Il y a des chemins de campagne. Et comment est-ce que tu vas expliquer ça au monde? So, pour la première chose que j'ai fait, j'ai rédigé un petit dépliant qui était appelé Retour en Acadie, qui avait des cartes historiques et des cartes d'aujourd'hui, avec des petits paragraphes qui disaient pourquoi telle et telle place est importante. Alors, on pouvait au moins penser ça aux visiteurs. S'ils étaient en auto, ils pouvaient trouver une autre se rendre. Les Boudreaux pour aller à Pointe des Boudreaux, qui est Stars Point aujourd'hui. Mais si on ne sait pas ça, on ne sait pas comment se rendre, on ne sait pas c'est même là. Alors, ça a commencé la chose. Mais après ça, on a eu des contacts avec des fois, juste du monde qui appelait à Grand Pré, qui disait la même chose. J'aimerais trouver l'emplacement de ma famille. Et le monde de Grand Pré, bien sûr, ils ont leur focus. Mais ils pouvaient nous appeler dire, hey, on a du monde qui veut aller au le village Thibodaux à Avondale. Pouvez-vous les emmener? So, nous, les amis de Grand Pré, on a fait beaucoup de tournées avec des fois des compagnies de voyage, des fois juste des individuels, des familles ou quelque chose, et on les amène là pour voir vraiment de où ils ont été déportés. Et qui est là et comment est-ce qu'il se passe. Le monde qui vient ici est toujours tellement impressionné par le système de digues et d'aboiteaux. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Même les Louisianais qui sont accoutumés d'avoir des terres basses et le lever et tout ça, c'est encore émotionnel pour eux si on peut les emmener juste là où est à leur famille. Dans la région de Windsor, les cartes sont meilleures que dans la région de Grand Pré. Dans la région de Grand Pré, tout a été nettoyé bien. Mais il y avait encore des cartes avec les noms des familles sur la rivière Avon, qui est Pisiquid, et Sainte-Croix, Sainte-Croix. So, on peut, dans cette région-là surtout, on peut amener le monde à la partie de la rivière où leur famille a été recensée. Et ça, c'est extraordinaire et c'est spécial. C'est un autre niveau d'avoir simplement visité Grand Pré, qui est encore formidable. Le film, les salles d'exposition, comprendre comment les digues fonctionnent, tout ça qui est à Grand Pré, l'église souvenir. Et l'église souvenir est vraiment une chose que, même quand j'étais là, on ne savait pas tout, qu'on a dû savoir, parce que l'église souvenir a été bâtie c'est 1920, quelque chose. Et tu peux penser à ce temps-là, c'est juste avant. La dépression, la depression. Et puis, les Acadiens, bien sûr, à ce temps-là, n'étaient pas tellement riches. Mais les élites avaient décidé qu'ils allaient bâtir une église parce que l'histoire de Grand Pré, c'est que John Frederick Herbin a acheté ce terrain-là. Et lui était un descendant d'une Robichaud de Clare. Et même que son père était français, mais il a acheté le terrain pour le sauvegarder pour la mémoire des Acadiens, qui était une chose formidable. Il ne parlait pas même français. Mais il voyait que ça, c'était important. Il était attaché à l'histoire acadienne à cause de sa mère et il a acheté le terrain. Finalement, il n'a pas pu le développer assez et il a dû la vendre au Dominion Atlantic Railway. Mais il y avait une condition que les Acadiens aient eu le droit d'ériger un monument. Et les Acadiens, élites, quand ils sont mis ensemble, ont dit, le monument va être l'église souvenir. Alors ça, c'est qu'elle a coûté, je ne sais pas combien. Et il fera faire du fundraising auprès des Acadiens. Ben, il y avait une couple de personnes qui ont donné une centaine de pièces, qui était beaucoup dans le temps. Mais dernièrement, on a retrouvé un registre qui avait les noms des Acadiens qu'avaient donné des dons pour bâtir l'église. Juste des Acadiens normaux, parce qu'aux églises, il y avait des demandes de fonds, puis toutes sortes de ah, vous devriez le faire pour la patrie acadienne et pour vos enfants et tout ça. Alors, dans le registre, on trouve des noms. Par exemple, chez moi, je viens de. Le bas du ruisseau, qui est Saint-Anne-du-Ruisseau, il y a une église à Saint-Anne-du-Ruisseau. So, l'église de Saint-Anne-du-Ruisseau envoyait ces petits bouts d'informations, qui étaient vraiment les bouts d'informations qui avaient été créés par les vraies personnes qui mettent le nom de le mari, sa femme et leurs enfants. Dans mon cas, à l'église Saint-Anne-du-Ruisseau, chaque de mes grands-mères a vu remplir les petits formulaires. Et les dons que le monde donnait, il y avait beaucoup de différences. Des fois, c'était à 25 cents, des fois, c'était à une pièce. Mais c'était comme le dernier sou qu'il avait donné pour bâtir cette église-là. Et ça, à moi, ça fait que... Et ça vient de tout... Ben, on pense qu'il y a plus de registres qu'on a trouvés, mais généralement, ça vient de Arichat et ça vient... Malheureusement, les parties claires, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup de par chez nous et il y en a même à Amherst. Ça vient d'ici et là et partout que le monde a envoyé le dernier sou ou quelque chose qu'ils ne pouvaient pas. Ça n'a pas été si facile de partager avec une pièce dans ce temps-là. Tu avais une famille de 10 enfants, tu avais un mari qui pêchait aux États. Comment est-ce que tu vas trouver de l'argent pour bâtir ce monument ici pour dire que, on est encore ici. Alors, moi, je trouve ça formidable qu'on a pu récupérer cette information-là. Alors, Grand Pré a beaucoup de, même nous, dans Nouvelle-Écosse, que des fois on pense, oh, Grand Pré, on prend par efface, ça ne nous dit rien, c'est rien que l'histoire, mais pour nos grands-parents, ça voulait dire quelque chose. Ils voulaient dire, ouais, on est encore ici et c'est important. Et c'est même qu'ils ont fait juste pas donner le petit sou pour bâtir cette église-là. Et ça a pris du temps en masse, et il y a eu une guerre et toutes sortes de choses. Ça a pris longtemps pour le finir. Mais quand même, je trouve que ce monument-là, ça, si le monde savait pourquoi c'est si important et ça va être si important pour nos ancêtres, ça aura un plus gros regard. Généralement pour les Acadiens qui se trouvent en Nouvelle-Écosse aujourd'hui. Mais à revenir à ta question, c'est comment est-ce que le monde réagit. Le monde réagit toutes sortes de manières. Une chose que j'ai trouvée et qu'on trouve souvent encore, c'est que les visiteurs qui viennent avec leur propre histoire, qui n'ont rien à faire avec les Acadiens, les Noirs, les Juifs, les Écossais, ils se voient les nouveaux arrivés qui viennent des pays déchirés, qui ont été déportés, qui ont subi des injustices. Ils peuvent se voir dans une partie de l'histoire acadienne. Et je trouve ça, c'est universel, c'est le point universel pour l'histoire acadienne, c'est que ça, c'est notre histoire. Les Écossais disent, ah ben, les Britanniques vous ont déporté, ben nous, ils ont remplacé par des brebis. Alors, le monde se connecte avec une partie de cette histoire-là qui n'a rien à faire avec leurs histoires, mais c'est malheureusement une histoire universelle. So, il y a ça, il y a le monde qui vient juste pour reconnecter avec les histoires acadiennes spécifiquement. Et ça prend, oui, il y a des mondes qui sont vraiment en colère, il y a des mondes qui pleurent, il y a des mondes, toutes les réactions, le monde qui est silencieux, qui lit tous les affiches, qui vraiment prennent le temps. Parce que l'affaire avec Grand Pré, que c'est grand, il y a de la place en masse, tu peux marcher, être seul et prendre du temps à réfléchir si tu veux. Il n'y a pas toujours beaucoup de monde alentour. So, ça donne une ambiance, je ne veux pas dire sacrée, mais une ambiance où on peut prendre le temps d'être seul avec nos pensées, avec nos émotions et tout ça. Alors, il y a tout ça à Grand Pré. Et je dis, oui, c'est pas même juste l'histoire acadienne. C'est une partie de la grande histoire canadienne.
Et c'est ça. Tu l'as bien dit. Et puis, tu as dit que du monde qui s'est en colère quand ce qui... Je ne peux pas arrêter de penser à ça. Tu dis que du monde qui est en colère quand ce qui voit l'histoire des Acadiens, quand ce qui venait de Grand Pré.
Oui.
Mais moi, c'est-tu bien du monde qui croit que si tant une image citant nette de l'histoire du Canada, qu'on sait qu'il y a eu du racisme, tu sais, il y a eu des esclaves et tout ça. Et puis, c'est meilleur d'un eye-opener pour ça?
Je sais pas, c'est impossible à savoir. Je crois que ça dépend si la personnalité de la personne.
Okay.
Tu vas toujours trouver du monde qui va se battre contre les affaires. On va trouver du monde qui va trouver des manières à vivre avec des choses ou pas complètement se battre, mais je trouve les Acadiens à Nouvelle-Écosse, disons, par exemple, nous, on est des experts à trouver des workarounds. Parce que si je sais pas, c'est pas vite, ça prend du temps, ça prend de la patience. Parfois, ça prend le temps de parler à les Anglais, par exemple. De trouver des liens en commun au lieu de juste dire « Vous êtes tous mauvais, nous autres avons été mal servis, mais si on va tous vivre ici, il faut trouver des workarounds, des choses qu'on a en commun. » Je veux dire, une couple d'années passées, il y avait une... un festival ou une présentation et il y avait les Acadiens puis les planters et représentants des Mi'kmaq et j'ai vraiment aimé ce que le chef des Mi'kmaq ici avait dit. Il a dit c'était au paysage de Grand Pré parce que ça c'est le site UNESCO qui fait partie de pas juste le lieu historique mais le paysage alentour qui inclut les planters puis les Mi'kmaq, sûrement. Et le chef des Mi'kmaq a dit, nous, on est ici. Vous êtes ici. Il faut si bien s'entendre, parce que none of us are going anywhere.
Yeah.
Et j'ai pensé, ça me semble, c'est beaucoup l'attitude qu'on a, plus à Nouvelle-Écosse. Mais si on trouve du monde, disons à Louisiane, qui ont été envoyés, qu'on va toujours penser que c'est une injustice, sûrement ça y était, mais il ne le vit pas tous les jours comme nous. Et il le voit de loin. Et de ça, ça donne une différente manière quand on arrive à Grand Pré. Que ça, c'est la chose qui nous agace beaucoup, qui n'a pas été résolue, qui est toujours difficile, et quand il arrive, là, ça les fesse de la face. Et c'est différent. Et je crois que c'est la différence sur la pensée, le mindset de la personne qui vient, comment ils vont le voir. Il y a d'autres personnes qui viennent, par exemple, les Québécois sont toujours intéressants. Les Québécois sont intéressants parce que, ben, on sait qu'il y a plus qu'une couple de millions de Québécois qui ont descendance acadienne. Et ça, c'est toujours, c'est dans le temps que j'étais là, qui est en 10 ans passés. Maintenant, j'espère que le monde vient plus connaissant. Et surtout, il y a des historiens comme André Carl Vachon qui ont écrit des livres sur les connexions acadiennes des Québécois. Ça donne plus de révélations pour eux. Mais on aime toujours de pouvoir dire, hey, ça, c'est une partie de votre histoire. Et tu, oh my God! Nous, on est les pures laines québécois. Et guess what? Vous avez des Acadiens dans votre lignée. Et parce qu'ils disent, ben, pas nous, on est des Doucettes, on est des Landrys. Like, hello. Et puis, ça, c'était comme une découverte pour eux. Ils trouvent ça, hey, ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas juste une histoire abstraite des petits paysages de fermiers qui ne savent pas mieux. Ça, c'est nous. So, ça fait des connexions intéressantes. Eux sont toujours intéressants. La chose avec Grand Pré aussi, c'est que dans le temps que j'étais là, il y avait des, comme nous, comme nos employés, il y avait des Acadiens de différentes parties de la province. Et des Québécois, et des fois des Français, et tout ça, comme guide. Et je trouve toujours ça intéressant quand surtout les Québécois, voulait nous entendre parler parce que ils pouvaient voir la différence de nos accents, ils pouvaient nous comprendre et on a un différent rythme acadien que les Québécois ont et c'est beaucoup ça, C'est le vocabulaire, t'es pas exactement, mais proche assez, tout ça. Mais quand on parle, on a différents rythmes qu'ils ont au Québec. Et je trouve que c'est peut-être ça. Je trouve que c'est à. Des fois, je me trouve à qui voulait juste me faire parler pour m'entendre parler. Et comme guide, on avait. Surtout quand j'ai commencé, j'ai travaillé avec François Godette, que tu connais, je suis
Ah
sûre.
ben sûr qu'on a
Et
fait qu'il sait, ouais.
Lisanne ou Liane Como était là. Et elle était une étudiante dans le temps. Mais je m'en souviens qu'on avait ces discussions-là sur il faut se faire comprendre.
Alors, c'était la fille à Nordbar, Liane?
Je suis pas sûre.
OK, Liane Como. OK, anyways.
Oui.
I couldn't talk. Yeah, all right.
Ouais. C'était l'affaire de pas nettoyer son accent si tant qu'on perd notre accent, mais dans le même temps, se faire comprendre. Ça, c'était toujours un peu de ça, cette chose-là avec la langue. Et ça, c'était toujours intéressant comme quand on est guide. Mais j'ai trouvé que une fois que j'étais plus confortable avec mon français, parce que honnêtement, après que j'ai quitté le Russo, j'étais à l'université en anglais, j'ai vécu en anglais pour une trentaine d'années. Alors, mon français a été un peu rusty quand j'étais à Grand Pré, à nouveau, mais une fois que ça est revenu, j'ai trouvé toute l'affaire de la langue très intéressante. Et toujours, par exemple, le mot de la Belgique qui dit 70,
70,
70, 80, hey, ce n'est pas juste une petite affaire qu'on dit à Pomnico qu'on ne sait pas pourquoi et quand même.
ça c'est comme la meilleure affaire Pomnico, c'est comme vous disiez ça, c'est comme vieux français, c'est ça.
Ça fait plus de sens. 70, c'est trop de maths.
moi je suis trop accoutumé à dire ça, parce que vous autres vous le disiez,
I
c'est si tant beau.
know. C'est comme ça. As-tu d'autres questions?
Oh, bien sûr, veut dire comme. Yeah, veut dire en masse de questions. Veut dire, des refs et tout ça que t'as fait. Hey, googler des affaires et puis comme. T'as fait des refs. C'est sûr que mind-blowing, mais par exemple, à New Rochelle, New York, le nom Surette, et puis ça a été renommé Suire et tout ça, des refs de même. T'as des histoires de ça?
Ça, c'est nouveau. Je suis très excitée sur ça.
Right.
Quand j'ai travaillé à Grand Prairie, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qu'on pouvait. Ben, dans le temps que j'étais là, le web n'était pas si bien organisé qu'il est pour l'information. Mais maintenant, je trouve que les choses pouvaient être plus claires et il y a plus de vrais experts qui mettent les informations. Je trouve pas le dictionnaire généalogique. Le dictionnaire biographique du Canada, par exemple, ce site web-là est extraordinaire. Tu peux trouver n'importe quoi sur n'importe qui, ben peut-être comme pas des personnes comme Pierre Surette, qui est une personne ordinaire, mais pour tout le Corsaire, Maurepain, les Saint-Castin, toute cette gang-là sont bien expliquées là. Et toutes les informations étaient soumises à ce site web-là par des vrais experts, des historiens, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup ces places-là. Mais il y a d'autres sites web que je peux me fier avec. Donc, j'ai appris que l'archéologue Jonathan Fowler, par exemple, est toujours quelqu'un fiable. Et qui a un aperçu pas juste technique avec l'archéologie, mais il est vraiment un poète, je crois, dans son cœur. Et même qu'il parle pas plus français que rien, mais il a le cœur des Acadiens avec lui. Et on a trouvé des personnes extra, les archéologues qui ont cherché à Grand Pré durant le temps que j'étais là. Et les historiens qui ont visité ou les livres que j'ai été exposés, j'ai trouvé beaucoup de places où ils me trouvent confortable. J'ai trop parlé. L'affaire de New Rochelle, pour ma famille, les Surettes, on est une des rares familles, je crois, qu'on sait plutôt d'où il venait, Pierre Surette, le premier Pierre Surette qui est venu de France. Il y a beaucoup d'Acadiens, on dit, on a tout quitté de la région de Loudun, La Chaussée, et quitté de La Rochelle. Ça, c'est normalement l'histoire des Acadiens qui est différente que les Québécois, parce que c'est pas le nord de France et c'est pas le sud du France. C'est à peu près au milieu, sur la côte ouest, et c'est là qu'est La Rochelle. So, pour la famille Surette, on savait qu'il venait d'une des paroisses de La Rochelle, pas si loin, et des généalogistes ont même trouvé où était son village. Ils ont trouvé des registres qui disaient qu'il était ses parents, ses frères et sœurs, toutes sortes d'informations comme ça, que pas toutes les familles savent ça. Mais ça, c'est bien. Ça donne la fondation de son histoire. Mais moi, je voulais ça. J'ai toujours été curieuse, même que j'ai visité ces places-là, et j'ai trouvé ça formidable. J'avais des questions sur pourquoi il est venu seul. Pierre Surette, le premier de France, est venu seul. Alors, il ne fait pas partie des familles acadiennes qui viennent pour travailler, s'établir et tout ça. Et il arrive, on le trouve, juste en 1708, où il se marie. So, il est dans les registres d'Annapolis Royal quand il marie une fille locale, Jeanne Pellerin. La question que j'ai toujours encore, c'est pourquoi? Pourquoi qu'il est venu seul? Qu'est-ce que la raison qu'un jeune gars qui arrive, by the time qu'il est marié ici, il a 28 ou quelque chose, ok, il n'est pas jeune, il a pu avoir une vie, il se trouve pas dans les registres de ses frères et sœurs qui sont mariés avant 1708. Pourquoi qu'il est venu en Acadie anyway? Qu'est-ce qui fera que tu feras ça? So, moi, ça, c'est la question que je cherche. Ça fait longtemps que je cherche ça. Et comme je dis, les sites web sont toujours mieux sûrs qu'il était une dizaine, une vingtaine ans passés. So, l'autre jour, j'ai dit, ah, je vais regarder à nouveau. Et j'ai commencé à juste faire du Googling. Et j'ai trouvé qu'il est dans juste un article d'un journal de France de la région de La Rochelle, qui parla de la société généalogique et historique mosienne. Parce que la ville proche de Pierre Surette, d'où il vient, c'est Mosée-sur-le-Mignon. So, ça, c'est tellement beau comme nom de place. Et j'ai dit, mosienne, OK. So, j'ai tapé ça et j'ai trouvé la société. Je les ai contactés pour voir s'il y avait plus d'informations. J'attends, ils m'ont répondu. J'attends encore la question. Je voulais savoir les raisons pourquoi un jeune gars aura quitté cette région-là dans ce temps-là. Et qu'est-ce qu'il aura fait avant? Qu'est-ce qu'il travaillait? Qu'est-ce que son travail? Pourquoi qu'il aura quitté? Il y a toutes sortes de raisons pourquoi que les gars avaient quitté ou les personnes avaient quitté cette région-là. C'est toujours l'aventure possible. Peut-être qu'il était protestant. Et les protestants ont dû s'en aller de là à un certain point. Ça a l'air que ce n'est pas vraiment ça, mais il y a des raisons comme ça que quelqu'un a quitté. J'attends encore pour tous les résultats de la madame de la société historique. Mais parce que je les ai trouvés, la société historique, sur Facebook, j'ai vu qu'il avait posté cette chose-là avec New Rochelle. Et ça, c'est une des places des personnes qui avaient quitté de leur région, qui étaient protestants, avaient été à New York, ça avait établi de la région de New Rochelle, New York. Ils avaient appelé New Rochelle, appelé La Rochelle, right? Et un des noms, c'était Suir. So, dans les recherches des historiens des années passées, il y avait toujours cette suggestion que peut-être qu'il y avait une connexion entre les Suires et les Surettes. So, ça, j'ai trouvé intéressant. Mais the jury is still out on all that. Mais j'espère de pouvoir faire des liens avec la personne de la société historique, parce que maintenant, c'est juste la personne qu'on veut parler. Parce que quand on est loin, c'est comme les visiteurs qui viennent nous voir, nous. On prend des choses juste, c'est juste normal. On n'y parle pas même. Mais de loin, c'est des questions comme pourquoi qu'on quittera? Comme si on était en France, on ne saura peut-être pas que dans le temps de nos grands-parents, tout le monde allait faire la pêche à Boston ou à Gloucester, comme qu'ils l'ont fait. Nous autres, on sait ça. Mais pour eux, ça va peut-être difficile à connecter ces liens-là. So, je trouve que c'est la même chose en France. Moi, je voulais lui demander des questions. Quoi. Pour eux, c'est peut-être assez normal qu'on n'y pense jamais. Mais ma grosse question était, j'aimerais savoir plus, mais je veux savoir, est-ce qu'on a des cousins encore en France? Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont mariés. So, la femme de la Société généalogique m'a dit, mais je crois bien que vous avez des cousins. Et ça, ça fera formidable. Alors, c'est juste des petites choses comme ça. Moi, j'ai juste, des fois, tu commences et tu vas down the rabbit hole, comme qu'on dit, c'est une chose ou autre. Et des fois, ça donne des résultats et des fois pas. Mais j'aime cette partie-là de la recherche.
Oui, comme ça veut dire, c'est pas vraiment une recherche que fait, mais une fois à te garder dans la Rochelle, des endroits qu'il y avait, puis il y avait un médecin ou un osteopathe sur Dernina Thibault, puis bien sûr, Louis oui. Thibault, le premier Thibault comme nous en Acadie, venait directement de la Rochelle, selon son morceau. Et
ouais.
Puis tu vois des affaires comme
Thibault,
ça.
Ouais, Thibault, c'est, je crois que c'est beaucoup. C'est un nom qu'on trouve beaucoup en France, même à ceux.
Okay.
Quand j'étais en France, on est sur le highway, puis il y a des gros trucks avec le nom Thibault dessus. C'est un nom qui est ici et là encore. Ça fera peut-être plus difficile à trouver parce qu'il y en a beaucoup. La chose avec les surettes, il n'y en a pas tellement beaucoup. So, ça fait les affaires un peu comme j'ai horreur de commencer des recherches sur les Leblancs.
Ma mère t'aime le blanc.
Il y en a trop.
Il y en a assez, il y en a beaucoup. Veux dire, mais ce qu'on est notre réunion de famille là, au Congrès, ouais. Pas même m'aviner comme est-ce qu'ils vont nous out.
Non, exactement. C'est, l'affaire avec le Congrès, c'est bien qu'il va y avoir des réunions de famille, de toutes sortes de familles, mais il n'y en a pas une tonne qui pouvons trouver qui sont au sud-ouest de Nouvelle-Écosse. Il y a des Gauguins, des Chassons, et tous ceux de monde qui viennent, qui sont à Nouveau-Brunswick, qui n'ont jamais été au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse pour une raison ou autre. Alors, ce n'est pas si évident de trouver les lieux. Il y aura des potiers, sûrement. Il y a des surettes, puis on a des Leblancs. Il y a des familles, mais il y a plein de familles acadiennes qui ne vont pas se trouver là, au sud-ouest de Nouvelle-Écosse, comme la place où leur ancêtre se trouva, par exemple. Mais je crois que finalement, à ce heure que plus d'informations viennent nous trouver sur le Congrès, qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui ne va pas se passer, c'est que je comprends que pour nous, parce que moi, je vais être au Congrès mondial avec une des groupes de voyage. Et pour qu'est-ce qu'on fait pour deux, trois autobus de personnes qui n'auront pas nécessairement, mais il va y avoir des réunions de famille, même si c'est des familles qui n'ont aucune connexion avec par en bas, par en haut. Ça, c'est bien. Mais autrement, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je crois qu'on va lui montrer une partie de l'histoire qui ne va pas. Disons que tu viens de la Louisiane. Je sais pas, j'imagine t'as visité la Louisiane, c'est plate. Quand tu viens au sud-ouest de Nouvelle-Écosse, c'est pas la même chose, mais c'est nouveau, c'est intéressant de comment tu vis ici, comparé avec comment on vit où on est. So, on va, je crois que pour nous, ça va être l'idée de je montrer la vie que le monde a eu ici, le paysage, comment les digues, les abattoirs, le travail en point pas chez nous, toute l'affaire de shipbuilding à Clare, à Wedgeport et tout ça, qui n'ont aucune idée parce que dans leur région, ce n'était pas ça. Le monde de Chéticamp, qui avait toutes les company stores et disons, la Gaspésie, qui avait des grosses compagnies de poissons qui exploitaient le monde généralement. Mais nous, il y avait un peu de ça, je comprends, dans le Yarmouth, mais ce n'était pas vraiment une grosse chose comme dans ces régions-là de Cap-Breton. So, je crois que le défi pour nous, ça va être pas nécessairement faire des liens directs, mais conter notre histoire. Ça, c'est notre histoire acadienne. Et vous êtes venus et c'est ça qu'on va vous dire, parce que ça va être différent et vous allez trouver des liens, comme le monde qui vient à Grand Prix de n'importe où, qui trouve le lien. Vous allez trouver ça, mais vous allez trouver des différences. Et ça, c'est toujours intéressant quand on voyage.
Pour sûr. Puis, veut dire, tu parles encore des différences et tout ça, même le monde qui va venir du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est une région qui ne sont pas accoutumés à visiter. Et puis, il y a vraiment des similarités, mais il y a des petites différences avec nous autres, avec les Acadiens du Nouveau-Brunswick. Veut dire, le fait qu'on est dans une province qui n'est pas bilingue officiellement, tu sais, ça fait, tu sais, c'est différent dynamique qui ça. Mais tu gardes les régions par en bas, et puis par en haut, Clare et Argyle, une affaire va dire, c'est pas du tout off-topic. Je crois que je le dis comme ça. C'est vraiment remarquable comment est-ce que la culture a survé.
Ah non, c'est un miracle.
T'arrêtes, tu penses. C'est incroyable.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, moi, quand j'étais à l'école, on avait Core French, c'est tout le français qu'on avait dans le temps que j'étais là. Et c'était pas tellement bien enseigné parce que les professeurs, c'est des Acadiens comme nous, et eux n'avaient jamais appris le français correctement non plus. Et on était entouré d'anglophones. Le fait qu'on peut encore parler français du tout, c'est un miracle. Surtout par en bas. À Clare, au moins, vous étiez un après l'autre, vos petits chapelets de village. Mais sur le bord sur notre bord d'Argyle, c'est un village acadien, un village anglophone, un village acadien, un village anglophone. Ils sont tous mélangés comme ça. Alors, j'ai décidé que je n'ai pas honte de mon accent ou de ma profession à écrire en français, parce que le fait que je peux même parler ou lire ou écrire le français du tout, c'est un miracle. Surtout dans notre temps, parce que ça, c'était avant le CSAP et toutes sortes de plus de choses qui pouvaient appuyer l'apprentissage de la langue et tout ça. Donc, je dirais, hey, c'est de même que c'est. Si je peux vous parler en français, c'est un miracle in itself.
Bien sûr. Et puis, par en bas, tu n'as pas peur à tout faire suivre ici, mais lorsque qu'on en parle, tu sais, par en bas, vous étiez plus prof. Ma mère venait des concessions, mon père venait prof des concessions. On était vraiment dans le cœur de Clare. Si tu restais à Miro's Hill ou Tusker de quoi de même, tu avais du monde qui parlait une différente langue back in the day, une différente religion. Et puis, tu sais, il y avait peut-être moi, je ne sais pas à quoi c'est que la parole, mais tu sais que autant. Moi, voyeur, Metaster, le monde est super nice. Mais je sais qu'un temps passé, tu sais, il y avait possiblement des tensions des deux bords, tu sais. Puis ça, c'était pas naïde.
Il y en avait, et je trouve que ça ferait un autre wake-up. Pour le monde de Nouveau-Brunswick, surtout le monde qui vient du nord de Nouveau-Brunswick, comme je comprends du monde que j'ai connu du nord de Nouveau-Brunswick, il y avait plus de tensions entre les Anglais et les Français là. Nous, parce qu'on est si minoritaire, je crois qu'on n'était jamais une grande threat pour les anglophones.
Right.
Alors, ce n'est pas nécessaire d'avoir des grandes choses parce que tous les Acadiens pouvaient parler anglais pour une chose. Et dans le même temps, si je regarde chez moi, je viens de Saint-Anne-du-Ruisseau, de Lower Eelbrook, le bas du ruisseau, excuse me, ce n'est pas exactement Saint-Anne-du-Ruisseau parce qu'il y a un petit pont. Mais l'autre village juste à côté, c'est Glenwood. C'est juste comme 2 ou 3 000 de là. Le monde de Glenwood, même dans mon temps, il n'était pas plus riche que nous autres. C'est tout du monde qui vivait à peu près la même chose, autre que eux, ils vivaient en anglais et ils allaient à l'église protestante, et nous, je vivais en français et j'allais à l'église catholique. Ben, autrement, j'étais tout dans le même petit bout de la province, et il faudra nourrir les familles, travailler, toutes les choses qu'on fait pour vivre paisiblement. So, le monde est à part, il n'est pas toujours en colère, en l'un ou l'autre. Souvent, ils travaillent ensemble. Comme dans mon temps, on a plus d'éducation, puis tout ça. Dans le temps, mes parents, ils avaient des liens, des amis des deux bords. Même dans le temps, mes grands-parents, la même chose. Parce qu'on n'avait pas le luxe d'être tout ensemble. On était tout mélangé. Tous les Acadiens ensemble, tous les planters ensemble. Non, on était tout mélangé. Et pour survivre ou déblayer les chemins ou aider avec la pêche ou quoi que ce soit, on était mélangé. Alors, c'est une autre raison pourquoi c'est un peu un miracle qu'on peut encore parler français.
Oui, c'est 100%. Tu sais, c'est meilleur comme moi habite à Saint-Joseph et est élevé à Saint-Joseph et puis Carberry au Vaudreuil est beaucoup anglicisé. Fait que oui. C'est meilleur que c'est que le borderline, tu sais, tu as des Anglais puis les Français, au moins Astor c'est de même, tu sais ce que je veux dire. Claire est venu plus mélanger Astor, mais quand moi j'étais à Run, c'est pas mal ça que c'était. Tu sais, c'est meilleur comme mon père quand il était venu, il s'en souvenait, tu sais, par la radio de New Tuscott et il y avait des Africains néo-écossais là et tout, tu sais ce que je veux dire. Mm-hmm. Et ça, c'était qu'ils connaissaient bien et tout ça. Son grand-père connaissait beaucoup le monde de la région là, c'est vrai que mon père était bien aimé, il croyait beaucoup, tu sais, de son grand-père.
Parce que le monde, il faut vivre, il faut s'entendre l'un de l'autre. C'est comme ça qu'on va survivre toutes les épreuves qu'on trouve, des feux, des n'importe quoi. C'est comme une communauté dans le même temps.
Yeah, c'est ça. Et puis, moi, je te dis, du monde qui s'est peut-être surpris de cette madame de la Révion et cette, je trouve que le monde s'accorde vraiment bon entre l'un et l'autre.
Oui, c'est ça. Je trouve que oui, la même chose par ici. So, ça va être une différence que les Acadiens qui viennent de d'autres réalités vont trouver et vont peut-être croire qu'on est trop soft, on est trop facile, on n'est pas combattant. C'est. Mais dans notre réalité, c'est ça qui fait du sens.
Oui, et puis comme par exemple notre premier ministre Tim Houston, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse Ian Rankin, ils ont beaucoup parlé pour les Acadiens, puis au moins ils en parlaient, on veut dire la sincérité, c'est une autre chose. On ne sait pas pour sûr, là, mais comme tu gardes au niveau. Quoi ça?
Je veux juste vous dire, ça c'est un improvement.
Yeah.
Parce que moi je m'en souviens du temps qu'il y avait des anglophones comme premier ministre qui ne pouvaient pas même dire bonjour.
Oui, c'est ça. Et puis, tu parles à gare du Nouveau-Brunswick, tu parles à gare des tensions et tout ça. Il faut garder leur premier ministre que moi, j'aime pas mal parler des politiciens, essayer de me fourrer dans ça, mais je suis pas un fan de leur premier ministre. Je suis vraiment open à gare, ça, tu sais.
Je crois que tous les Acadiens du Nouveau-Brunswick sont de la même pensée comme toi. Et, oui, c'est des fois, c'est difficile à. Oui, ça va être la chose à communiquer à nos visiteurs comment ça se passe pour nous, qui va être bien différent que no matter where qu'ils viennent. Les mondes, il va y avoir du monde des États-Unis, pas juste de la Louisiane, mais des États du Nord et tout ça. Il y a des différentes réalités pour les Acadiens. Là aussi, il y a New Hampshire, à Maine, il y a encore des Acadiens, je veux dire, des francophones, du monde qui parle encore français, qui n'ont pas perdu leur langue. Ça, c'est une chose que je trouve triste aussi. C'est que j'ai rencontré beaucoup d'Acadiens et je les rencontre encore parce que, tu sais, j'ai écrit le livre qui s'appelle Refuge, qui est l'histoire de Pierre Surette et Catherine Bro. Et je fais des conférences ici et là. Et quand j'étais guide à Grand Pré, je rencontre souvent des Acadiens qui ne pouvaient pas parler français. Que même quand j'étais jeune, les Acadiens qui vivent à la ville de Yarmouth ne parlent pas français. C'était comme une chose qui ne va pas t'aider dans la vie, parler français.
Un coup d'un Acadien qui a été élevé à Yarmouth, qui comprend le français, mais qui ne parle point.
Ouais.
Et puis, ses enfants sont 100% sans Acadien. Elle reste dans Clarester. Et puis,
ouais.
Comme... Mais moi, je trouvais ça meilleur de, tout le temps meilleur de drôle quand elle avait découvert ses deux parents au France. Hein. Mais elle avait été élevée à Yarmouth. Et puis,
ouais.
Avec du temps, elle est vraiment... attendait des histoires comment c'était parce que, un temps passé, il faut que tu comprennes, moi, j'ai été élevé dans une religion aussi dans catholique, je ne savais pas même qu'il y avait d'autres religions. Et mon voisin qui était un ministre baptiste, c'était un ministre baptiste. Il venait du Caroline ouais. du Sud. Et puis, si tu as appris de lui, c'était vraiment un différent gars de mes points de vue. C'était un gros républicain, la marque et tout ça. Mais si tu écoutes, il parlait à lui des affaires et tout ça, vraiment des différents points de vue et tout ça. Et puis,
ouais.
c'est drôle comment tu peux trouver du common ground avec du monde. Tu sais ce que je veux dire?
Ouais,
mais ça, c'est même une différente histoire. Là, mais oui, c'est comme ça. Je veux dire, moi, je comprends pas vraiment l'affaire là, mais avec du temps,
ouais.
j'ai compris. It was a thing. Et puis, c'est si t'as bien parlé, c'était rien catch-on avec du temps, avec de la, tu sais, des
ouais.
documentaries, c'est vu. Il y avait des tensions religieuses entre protestants et catholiques qui me blow à ma mind, tu sais, moi.
Ouais. Mais even. Dans mon temps, moi, j'étais née dans 1950, ça. Je suis vieille, c'est pour être ta mère, je suis sûre. Mais dans mon temps, c'était pas si une grosse chose. Il y a beaucoup des mariages entre les Acadiens et les protestants de l'autre village. Ça, c'était pas si extraordinaire. C'est encore différent, mais dans le temps de mes parents, ça aurait été une grosse, grosse chose. Mon père est né en 1915, so juste mes parents sont nés durant la Première Guerre mondiale. Dans cette génération-là, marié à protestant, oh boy! Ça, c'était expulsé, personne ne voulait te parler, il faudrait que tu vives l'autre bord de la ville, je ne sais pas quoi. C'était une grosse chose, mais quand tu y penses, ça, c'est juste trois générations. C'est pas beaucoup quand tu passes à du temps. Alors, ça change vite parce que ça va pas changer du tout jusqu'à ce temps-là.
Ouais.
So, ouais, la religion a fait beaucoup de divisions, mais ça le fait encore.
Oh, ouais.
J'ai aimé ça que tu as dit au sujet de parler à quelqu'un qui est complètement différent et trouver le common ground parce que je suis un peu tannée et je suis un peu... j'ai perdu la patience avec les médias qui nous disent à tous les jours qu'on est divisé comme jamais avant. Je dis, si vous arrêtez à nous dire qu'on est divisé, peut-être qu'on pourra trouver notre common ground. Mais si on est dit à tous les jours qu'on est divisé comme jamais avant, on va continuer d'être divisé. Anyway, ça c'est un autre sujet et tout. Qu'est-ce qu'on parle là?
On parle là encore d'Olivia et tout le fun stuff là. Mais comme c'est vraiment. Ouais, c'est... Yarmouth, par en bas, Clare et tout ça. Veut dire, yeah, c'est comme que Pémas ne peut pas croire que c'était le même. Comme je sais que, par exemple, je sais que la grand-mère, ma mère, qui était une commo, elle était mariée une commo, je ne sais pas quoi c'était que son nom de famille avant qu'elle était mariée, mais quand est-ce que John F. Kennedy s'est fait assassiner, ça l'avait tué, pas literally, mais veut dire ça l'avait comme... Parce que John F. Kennedy, c'était catholique et puis était le président de la Maroc.
Ouais, et c'était le premier président catholique. Pour cette génération-là, c'était important.
Yeah, c'est ça, puis moi, ma mère avait dit à cause qu'il était catholique et puis au temps, on ne comprenait pas vraiment ça. Elle était tard dans mes 20 et tout ça, tu sais. Et puis, même pour les présidents catholiques, Joe Biden est catholique. Et puis, je crois que c'est rien comme le troisième ou quatrième président catholique.
Oh, mais il y a peut-être rien que le deuxième.
On ne peut pas dire. Il y en a au moins deux. JFK et puis Biden. Je sais que Biden est catholique, ouais.
Ouais, c'est ça. So, c'est pas aux États... Parce que ça vient de l'histoire. Vraiment, parce que les États ont été fondés par les puritains, et puis c'est à toute la religion protestante, ce bord-là. Quand on parle de l'histoire acadienne, vraiment, tous les attaques entre l'un et l'autre, c'était pas juste les Français contre les Anglais, il y avait la religion qui était mélangée dans ça, qui était exceptionnellement importante dans des certains temps, Et surtout à des époques où, par exemple, Port-Royal a été attaqué comme 5-6 fois de suite, ben, ce n'était pas juste le territoire. Il y avait toujours mélangé dans ça la religion.
C'est ça. Et puis, une dernière affaire. On parle encore de l'histoire de l'Acadie et tout ça. Avant la déportation, rien que pour être clair avec tout le monde, et puis quoi que c'est important que vous disiez ça dans le podcast, tu sais, on a tout le temps l'image que l'Acadie avant la déportation, c'était, au moins, rien que parler pour moi-même, que l'Acadie avant la déportation, moins temps passé, quoi qu'il y avait de la paix et tout ça, il était quitté tranquille. Et puis, c'était pas vraiment ça le cas. Il y a eu des conflits avec les Anglais. Tu sais, se faire attaquer qu'au 10 fois dans 100, hein, on le coûte même. I mean,
ouais.
Tu sais, ça veut dire, il y a tu sais, dans tes connaissances, whether c'est de la RFRF ou des affaires, vous devez savoir, il dit, quoi que tu veux dire ça, les hardships qu'il y a eu avant la déportation?
Oui, je crois que, oui. Premièrement, c'est du vrai monde. Ce n'est pas juste des caricatures. C'est vraiment important de lire les différentes sources. Parce que si tu lis quelque chose qui est écrit par des Anglais, ça va être, oh, les Acadiens, c'est juste du simple monde. Et si tu écris quelque chose écrit par les Français, ils vont dire combien religieux qu'étaient les Acadiens, quand même qu'il avait quasiment jamais des prêtres, quand il y en avait, il restait pour une couple d'années. So vraiment, les Acadiens, c'était des débrouilleurs. S'il n'y avait pas de prêtres, il avait une messe blanche. S'il n'y avait pas de prêtre, quand ce prêtre viendra, il pourra consacrer les mariages et baptiser les enfants. In the meantime, le monde s'organise. Ici, en Acadie, parce qu'on est en Acadie, pas au Québec, so on a toujours l'affaire de, comme qu'on parlait avant, de faire les liens, de vivre avec des choses que peut-être que ça aurait été difficile, mais trouver le common ground. Qui est à plus de la pensée des Acadiens, pas tous les Acadiens. On a toujours les Acadiens qui ont toute la grande réputation comme Beau Soleil Broussard d'être toujours un batailleur. Mais moi, je trouve que cette image-là, c'est une image masculine de Beau Soleil Broussard. Parce que, par exemple, parce qu'il n'est pas le seul, qu'on parle des personnes qui sont battues, qui ont... Mais les femmes que je connais, qui ont lu son histoire, ont une autre impression. Si un gars qui se bat, qui perd des enfants dans la bataille, qui trompe sa femme, c'était un great guy, ça. So, les zéros qu'on a, c'est toujours moi, parce que je suis une femme, et quand je lis une histoire qu'il y a eu une bataille, je sais qu'il y a eu des viols. Parce qu'il y a toujours des viols dans toutes les batailles, dans tout le monde, dans toutes les histoires. Mais on parle déjà de ça? Ben, des petites mentions, comme dans le livre de Winslow, sur le journal, qui dit oh, il y a une femme qui est dans un mauvais état, puis, oh, guess what happened to her? So, il y a des choses que l'histoire ne nous dit pas. Il y a des choses qu'il faut vraiment lire avec un fin regard sur qu'est-ce que ça veut vraiment dire, ça. Qu'est-ce que ça veut... si tu regardes même les nouvelles aujourd'hui, oh, guess what, il y a eu des viols. Ouais. Vous en avez trouvé, vous avez gardé pour des mois et vous en avez trouvé. Ouais. Si vous gardez plus, vous en trouvez plus. C'est toujours de même. C'est de même la guerre. Ça, c'est un arme de guerre sur le viol. Et on ne parle pas assez de ça. Et moi, je trouve que ça ne nous dit pas assez. Mais pour l'affaire de tout le monde est heureux et puis tout ça en Acadie, ça, c'est... Ça dépend comment tu le gardes. S'il y avait... généralement, oui. Parce qu'il n'y a pas eu une grande guerre, mais il y a eu des attaques en masse entre les Anglais et les Français, les Abenaki, les Mi'kmaq, ils étaient tous mélangés dans ça parce que les peuples autochtones, ils étaient sur un bord ou l'autre, dépendamment des politiques dans le temps. So, eux, ils n'étaient pas toujours paisibles à rien faire parce que, non, ils avaient des intérêts aussi. Ça, c'est une chose qui me... qui je trouve ça trop simple aussi de dire les pays autochtones étaient toujours paisibles. Vraiment, ils sont du vrai monde. On ne devrait pas faire des petits enfants qui ne savent pas mieux de eux. C'est un monde avec une société qui a vu des intérêts, qui a vu des trade relations, qui voulait se survivre. Ça, c'est complètement maladroit de nous dire, oh, ben, c'était toujours du monde paisible qui faisait rien. Ben, c'est la même chose comme les Acadiens. C'était pas toujours du monde paisible qui faisait rien. Il y avait du monde qui était plus batailleur, comme Beausoleil Broussard, disons. Il y a du monde qui essayait d'être conciliatoire entre, parce que ça changeait souvent ici, entre les Anglais et les Français. C'était pas toujours comme Québec. C'est les Français, period. And then, les Plains of Abraham, c'est les Anglais, period. Non, nous autres, ça change. Puis, il faut être flexible quand on vit dans une place de même. Et ce n'est pas toujours parfait. Oui, on sait que les bébés vivent plus longtemps. La mortalité enfantine est meilleure en Acadie. Ben, il y avait de la bonne nourriture la plupart du temps. Mais des fois, il y avait des récoltes qui étaient finies parce qu'il y avait eu une inondation des champs où il y a eu une attaque de quelqu'un qui a brisé les abattoirs. Ça ne va rien te donner. Il y avait, ben, comme toujours, il y avait du gossip et il y avait bien sûr la haute société comme la famille de Muse d'Entremont qui sont liées au Latour, qui sont liées au Saint-Castin. Mais ça, c'est la noblesse, une petite noblesse quand même, mais une noblesse qui t'as pas, si tu regardes les mariages entre ce monde-là, ils se entremariaient. C'est pas souvent qu'ils vont trouver quelqu'un qui va step out of the mold, comme Philippe Muse d'Entremont qui marie un autochtone. Ça c'était vraiment différent. Les autres avaient tout marié entre les Latour et les Abadie Saint-Castin, toute cette petite noblesse-là. So, on peut croire qu'il avait un certain niveau de. C'était pas tout le monde, c'était la même chose. Oui, il y avait plus de connexions parce que c'était un petit groupe de monde. So, à un certain point, on va toujours se côtoyer, mais sûrement, il y avait Alexandre Bourque qui était le notaire pour des années et des années. Lui, il a plus de sociétés. Ici, à Grand-Pré, on a sûrement les D'Entremont et les Melançon qui sont vraiment top of the heap. Et then, il y a Pierre Thériault et sa femme Cécile Landry qui sont sur le bord de Rivière-aux-Canards. Et c'est eux qui sont en charge de quand le monde va venir puis qui va s'établir et tout ça. So, il y avait des sociétés comme n'importe où. On ne peut pas croire que tout le monde a toute la même chose, tout le monde s'aime à tout le temps. Ça ne va pas en sens. Moi, j'aime toujours trouver des petites histoires où il y a eu du gossip sur une chose ou l'autre, ou quelqu'un a eu un enfant comme 2 mois après son mariage, et toutes sortes de choses comme ça, que c'est pas juste tout le monde est à saint, tout le monde est à parfait, tout le temps. Non. Ça ne va pas en sens. Moi, je trouve ça pas intéressant du tout. Je trouve ça plus intéressant quand il y a des petits side stories, puis des petites affaires, des petites anecdotes. Moi, c'est ça que je garde. Quand je lis un livre d'histoire, j'aime de voir où est la grande idée, un peu comme Grand Pré, la grande idée, mais pour voir le vrai monde, comme maintenant, à Grand Pré, on envoie les visiteurs à Claire ou à Argyle ou à Shelley-Camp. Pour voir le vrai monde, il faut lire ces petites histoires-là, parce que c'est là qu'on trouve le cœur et les vraies personnes.
Quand faisons une fête de la recherche sur l'Acadie, quand tu connais le monde, puis tu connais la mentalité, c'est un gros avantage pour sûr. Il faut que je sois d'accord avec toi là, 100%. Right on. Ça fait que c'était un plaisir d'avoir toi sur le podcast. Tu as eu beaucoup à dire. Et puis, on pourra parler de ça pour des heures de temps. Mais on peut peut-être faire ça une autre journée. Ça fait que tout le monde, merci pour écouter. Puis à la prochaine.